Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en RDC. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Élisée Odia, elle est journaliste indépendante. Bonjour Élisée Odia.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs de la Radio Okapi.
Merci. Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Et il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Et il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Bonjour Maître Dominique Kambala.
Guy Maté, bonjour. Je fais coucou à Élisée Odia.
Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste du journal La Libre Belgique. Bonjour Hubert Leclerc.
Bonjour Monsieur Guimetti, bonjour à tout le monde.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Élisée Odialé, journaliste indépendante, Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Et il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Au menu de cette émission, nomination d'une femme à la tête du gouvernement en RDC, une symbolique où le plafond des verres est réellement en train d'être brisé par la femme congolaise. L'UDP s'accuse Joseph Kabila de soutenir la rébellion du M23. Et enfin, commémoration du 7e anniversaire des graves violations des droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité à Kananga à la suite du conflit Kamuina-Nsapu. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la promesse du chef de l'État relative à la création de plus de 6 millions d'emplois. En effet, créer 6,4 millions d'emplois en RDC dans les 5 prochaines années de son second mandat, tel est le défi que veut relever le président de la République conformément à son discours de campagne. Félix-Antoine Tshisekedi l'a rappelé mercredi 3 avril à Kinshasa à l'ouverture de la matinée de l'emploi. Il a demandé à l'Office national de l'emploi ONEM, organisateur de cette activité, d'accorder une attention particulière au secteur économique porteur de développement et créateur d'emplois. C'est notamment le cas du programme de développement des 145 territoires. Élisée Odia, créer 6,4 millions d'emplois en RDC dans les 5 prochaines années n'est pas quelque chose d'impossible, n'est-ce pas?
Non, ça ne l'est pas du tout pour un si grand pays comme la République démocratique du Congo, potentialité énorme. Donc c'est pas du tout impossible, mais moi je me dis ça sera dans quel secteur? On parle de secteur porteur de développement, 145 territoires. Oui, mais quand le 145 territoires a commencé, on pouvait déjà nous dire combien d'emplois ont été créés via ce programme. Ça aurait pu nous donner une idée. de ces qui peut être réalisé via ce programme pour atteindre ces objectifs du président de la République. L'ambition, elle est là, c'est énorme, créer 400 000 emplois en 5 ans, mais c'est aussi réalisable. Je crois qu'au-delà de 145 territoires, on peut également mettre un accent particulier sur des emplois. Je crois qu'on néglige quand même le côté... je vais parler de l'Internet, qui crée de plus en plus d'emplois, énormément, mais quand on n'arrive pas à bien répertorier tellement d'emplois qui sont créés grâce à l'Internet, mais comme dans notre pays, il y a toujours ce côté-là, c'est normal, l'informel. Il n'y a rien qui est formel, on n'arrive toujours pas à formaliser, à bien encadrer les différents emplois qui sont en train de se créer et qui peuvent être créés ici. Au-delà de ça, puisqu'on parle de l'informel, on peut déjà commencer par répertorier tous ces emplois, tous ces travailleurs qui évoluent dans l'informel et essayer de les aider à formaliser quand même ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Donc je me dis, arriver à créer des emplois, on peut le faire, mais arriver à formaliser ces emplois-là et arriver quand même aussi à rehausser, à jeter un œil sur le salaire de ces employés, surtout ceux qui travaillent auprès de nos frères et sœurs expatriés, chinois, indiens, libanais, ce serait une bonne chose. Donc, moi, j'attends voir comment est-ce que l'ONEM, avec le président de la République, compte mettre en place cette ambition qui est énorme et qui est qu'on souhaite que ça puisse se réaliser.
Merci, Maître Dominique Kambala. Partez, c'est possible que le chef de l'État puisse relever ces défis en si peu de temps. À votre avis, quels sont les préalables à accomplir pour espérer parvenir à cet objectif, hein? Vous avez suivi Élisée Odia, qui pense qu'il faut notamment commencer par répertorier les emplois qui existent déjà.
Ben, moi, je m'exprime au sujet de la contrée dans laquelle je vis. Je suis dans le Kassai et il n'y a aucune opportunité de développement en termes de réalisation des projets porteurs de croissance économique. Tous les projets qui sont implémentés dans le sens de croissance économique ne font qu'un perpétuel recommencement. On inaugure, on reprend les euros. On avance, on recule. Alors, ça pose un problème sérieux lorsqu'on ne sait pas implémenter les projets porteurs. Nous sommes dans une région où il n'y a pas la desserte en électricité. Or, la desserte en électricité peut attirer les investisseurs et, par ricochet, créer des emplois. Il en est de même de l'enclavement même du centre du pays, le Kassai. Alors cet enclavement fait en sorte que, bon, il n'y a pas beaucoup d'opportunités et que le projet, par exemple, route Kananga-Kalamba-Rouge, construction du barrage Katende, ce projet ne font que reprendre. Alors donc, à ce moment-là, ça pose un problème. Donc c'est un préalable pour faire avancer les projets porteurs de croissance économique qui peuvent booster la question des emplois.
Merci Hubert Leclerc. Il y a des experts qui pensent que pour qu'un tel projet se concrétise, cela requiert, n'est-ce pas, des mesures fortes sur les changements des paradigmes de gouvernance en RDC.
C'est clair que si on veut développer l'emploi en RDC, il faut attirer des investisseurs. Ça, c'est la clé de voûte de toute réussite. Et pour attirer des investisseurs, il faut évidemment sécuriser ces investisseurs, il faut garantir qu'il n'y aura pas de corruption, il faut garantir que l'État va protéger ses investisseurs, ce qui n'est pas là aujourd'hui. Moi, je me souviens que lors de la première campagne électorale, vous vous en souvenez certainement aussi, là, on parlait de 5 millions d'emplois qui allaient être créés. Ici, on parle de... Je pense qu'il n'y a rien eu, à peu près, lors du premier mandat. Ici, on parle de 6,5 millions. Grâce à quoi parviendrait-on à créer le tissu nécessaire pour créer ces emplois? Alors potentiellement, c'est faisable, évidemment. Dans l'absolu, le Congo est un immense pays, les richesses sont là, et qui ne demandent qu'à se développer, mais malheureusement, la structuration de l'État n'est pas là, et ça va être très très compliqué de réussir ce véritable défi.
Merci. On va prendre une petite pause avec Par les Travails, cette chanson de Koulmatopé. On revient tout de suite après.
L'Éternel Dieu, après avoir tout créé, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultivât et le gardât. Travailler est donc un devoir sacré, une obligation divine. Tout homme qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni.
Par les Travails, cette chanson de Koulmatopé à travers laquelle il exhorte, il encourage les gens à travailler. On revient à l'actualité de cette semaine. Judith Suminwa-Tuluka, ancienne ministre d'État en charge du plan, devient la toute première femme dans l'histoire de la RDC à occuper le poste de premier ministre. Dans ses premiers mots, après avoir été reçue par la chef de l'État lundi, elle a affirmé être consciente de la grande responsabilité qui est la sienne. Judith Suminwa-Tuluka s'engage avec son futur gouvernement à travailler pour la paix tout en exprimant sa compassion à tous les Congolais confrontés à des conflits, notamment dans l'est du pays. Élisée Odia, vous êtes journaliste indépendante. Vous avez souhaité nous parler de cette actualité en la formulant ainsi. Nomination d'une femme à la tête du gouvernement en RDC, une symbolique où le plafond des verres est réellement en train d'être brisé par la femme congolaise. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame Élisée Odia?
Déjà, j'aimerais dire par là que j'espère réellement que c'est pas juste le sexe qui a été nommé, c'est pas juste un genre qui a été nommé par le président de la République, mais j'espère que le président de la République a plutôt intégré la donne compétence et méritocratie au regard du parcours de la nouvelle ou de la première première ministre que nous avons actuellement citée vraiment par rapport à ça, parce que moi, ma crainte, c'est de voir que nombre risque de tomber. Justement, le combat de la femme, c'est de lutter également contre des clichés, contre des stéréotypes, contre une certaine perception de la société, surtout africaine. Mais ce n'est pas seulement en Afrique où ça se passe, c'est-à-dire quand on voit une femme être promue à un poste, on la réduit qu'à son genre, qu'à son sexe, le fait qu'elle soit femme, et on a tendance à passer outre ses compétences, ses capacités à mener à bien une mission qui lui a été, des missions qui lui a été confiées ou assignées. Ça c'est de un, je dis, est-ce que le plafond de verre a été brisé, je dirais non. C'est certes des avancées à ne pas négliger par rapport au combat des femmes, de la femme ou des droits des femmes ici en République démocratique du Congo. C'est juste une bataille qui vient d'être gagnée. Faut pas qu'on se leurre, je veux pas faire du chichi ou faire comme des politiques qui vont dire oui, qui vont essayer de minimiser. Non, c'est une véritable bataille qui vient d'être gagnée, une bataille de combat de droits des femmes, mais c'est loin d'être, ça ne sonne pas le glas du combat de la femme qui, elle, doit continuer. Et je tenais juste à rappeler et à dire également, quand on parle de combat des droits des femmes, les droits des femmes ne sont pas différents des droits humains, c'est-à-dire de droits de l'homme et de femmes en général. On doit essayer de rappeler cela, les femmes ont les mêmes droits. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Mais au-delà de dire que les femmes ont les mêmes droits, les femmes doivent aussi accepter de courir les mêmes risques que les hommes. On doit essayer de rappeler cela aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une femme est nommée qu'on doit devenir laxiste dans le jugement, pas par rapport à la personne, mais par rapport à l'action de la personne. Si on a été dur dans nos critiques par rapport à la gestion de l'homme, que la femme qui est nommée actuellement ne pense pas qu'on va être large, qu'on va être laxiste dans nos critiques, ou qu'on va être... On essaiera de la juger par rapport à ses actions, par rapport à ses performances, par rapport à ses réalisations.
Justement, Élisée Oya, justement, Élisée Oya, que répondez-vous à ceux qui semblent dubitatifs, pas par rapport à la compétence ou à l'expérience de Madame Judith Souminwa, mais plutôt au contexte dans lequel elle prend la tête du gouvernement? Cette opinion pense que les pays traversent une crise multiforme face à laquelle Madame la Première Ministre pourrait avoir d'énormes difficultés, n'est-ce pas, pour affronter cette crise, étant donné que des solutions à certains aspects, n'est-ce pas, de cette crise ne pourront pas dépendre d'elle.
La situation en République démocratique du Congo, la résolution des difficultés, des différentes crises auxquelles fait face ou doit faire face la République démocratique du Congo, ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Ça dépend de quelqu'un qui a des compétences, ça dépend de quelqu'un qui a une vision, ça dépend de quelqu'un qui va essayer de mettre en place des mécanismes susceptibles de nous en faire partie. Et là, c'est ce que nous disons, on retombe dans des clichés, dans des stéréotypes qu'on colle souvent à la femme. Il suffit qu'on soit femme pour dire non, elle va pas y arriver. Je crois que c'est trop facile et c'est trop rapide. Voilà pourquoi moi j'invite, et c'est le moment, effectivement, d'où la responsabilité d'ailleurs de celle qui vient d'être portée à la tête du gouvernement, d'essayer de démentir toutes ces langues-là qui pensent ou qui veulent inoculer au sein du public que non, la femme, elle n'arrivera à ne rien faire. Nous avons eu des hommes pendant 60 ans, dans plusieurs postes ici, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Est-ce pour autant qu'on empêche les hommes d'afficher encore leurs ambitions? Non. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont hommes. Moi, je crois qu'on doit plus essayer de regarder la personne que le genre. Regarder l'action, regarder l'apport de la personne, regarder la méritocratie, regarder ce que la personne arrive à apporter au sein de la société, que se limiter à la simple question de genre. Et cela commence même, ça doit commencer au niveau de l'école. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on parle de la femme dans nos écoles? Ce samedi d'ailleurs, ça sera férié en République démocratique du Congo parce que on va célébrer la l'action de Simon Kimbangu. Mais combien parle de celle qui accompagnait Simon Kimbangu? On parle de Mama Mwilu. Comment est-ce que dans nos écoles, on arrive à parler de Kim Pazita? On n'en parle même pas. C'est-à-dire, il y a une responsabilité. Au-delà de ces avancées, il y a un travail pédagogique, il y a un travail d'éducation qui doit commencer déjà de les bas âges, essayant de mettre en lumière les femmes qui ont marqué notre pays, qui ont marqué notre pays, pas parce qu'ils étaient femmes, mais parce qu'ils ont porté un combat. On parle de Mama Mwilu, mais elle était là également pour l'éveil des consciences des Noirs, des Congolais. Elle a milité, on parle de Kim Pazita. Donc, ce sont des figures qu'on doit essayer de mettre devant de la scène pour essayer de faire tomber certains clichés qui constituent actuellement des pesanteurs au sein de nos sociétés, qui constituent à ne voir en la femme que le sexe, à ne voir qu'en la femme que le genre et à ne voir rien d'autre.
Merci, Maître Dominique, membre de la société civile du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Vous êtes rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Vous êtes également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Maître Dominique, on est habitué dans ces pays à ces phénomènes des gouvernements parallèles, à ces phénomènes des super ministres. Et cela a toujours déstabilisé, n'est-ce pas, les différents chefs du gouvernement en RDC. Est-ce que cela ne va pas être le premier handicap pour la nouvelle première ministre? Est-ce que ce n'est pas finalement le système politique dans lequel elle va évoluer qui va aussi la combattre?
Exactement, exactement. Il faut d'abord reconnaître que cette nomination est monumentale, elle est symbolique, c'est une première en RDC. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a un problème par rapport au système dans lequel Madame la Première Ministre va travailler. L'architecture constitutionnelle actuelle voudrait que le chef de l'État, le président, préside et que le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement puisse gouverner. Mais en réalité, la pratique démontre que c'est le président qui préside et qui gouverne. Et le premier ministre, le chef du gouvernement, joue un rôle d'étiquette, ce qui fait que ça pose un certain problème, un sérieux problème au niveau du système politique dans lequel la première ministre va travailler. Et aussi, il y a un problème au niveau de la corruption. Nous sommes dans un pays où la corruption est devenue un fléau, un mal délétère aux conséquences multiples. Comme vous le savez, le classement de la RDC actuelle indique que la RDC se trouve parmi les 15 pays les plus corrompus au monde. En Afrique, sur 52 pays, la RDC occupe la 49e position. Alors ce mal, il faut avoir de véritables biceps pour le déraciner. Et que donc, si on n'arrive pas à déraciner, à combattre, à réduire sensiblement la corruption, elle a un impact sérieux et un impact considérable sur le développement socio-économique du pays. Et puis aussi, un commentaire en ce qui concerne la compétence. C'est bien beau de dénumérer les masters. On a combien de milliers de diplômés dans ce pays? Combien de docteurs dans ce pays? Moi, je pense que ce qui importe, c'est pas peut-être la compétence, mais il faut qu'on ait des personnes et des femmes qui ont la passion pour le Congo. Est-ce que aujourd'hui, Madame la Première Ministre peut nous démontrer qu'elle a de la passion pour le Congo? Je crois que là, wait and see, d'autant plus qu'elle vient d'un gouvernement qui a fait naître beaucoup d'espoir dans les chefs de la population, mais hélas, elle doit nous prouver qu'elle a véritablement de la passion pour la RDC, au-delà des compétences justifiées à base des titres académiques.
Merci Hubert Leclerc, vous êtes journaliste au journal La Libre de Belgique. Que répondez-vous à ceux qui disent que la première ministre, la nouvelle première ministre a une lourde tâche dans ce sens que l'évolution de la perception du rôle de la femme dans la société congolaise dépendra de la manière dont elle va travailler en tant que première ministre? Si elle réussit tout de suite, la perception que certaines personnes ont sur la femme va changer positivement. Vous avez suivi Olivier Odia qui pense qu'elle doit démentir, n'est-ce pas, ce que tout le monde pense au sujet de la femme dans ces pays, à travers son travail?
Écoutez, je pense que ça fait peser beaucoup de poids sur les épaules de votre première ministre de dire que ce sera à elle de prouver ce qu'elle peut faire et à travers elle toute la population congolaise, toute la population féminine congolaise. Je suis tout à fait d'accord avec les deux interlocuteurs. Un sur le fait que c'est d'abord un responsable, un ou une responsable politique qui doit mener à bien la politique du pays, que ce soit un homme ou une femme, ça ne doit rien changer. Et ensuite, en effet, on a vu ces derniers temps, et depuis déjà quelques années maintenant, que le Premier ministre n'était jamais qu'un exécutant de la politique qui était clairement dessinée et décidée au niveau de la présidence. Donc ça va être très compliqué pour elle, c'est une évidence. Alors peut-être qu'elle va trouver son chemin pour parvenir à imposer ses choix, mais il est clair aussi qu'elle risque de se retrouver en compagnie de quelques ministres qui auront déjà beaucoup plus de bouteilles, beaucoup plus d'assises et peut-être beaucoup plus l'oreille du président. Et donc ça va être compliqué. Donc je dirais c'est la meilleure chose à faire, c'est peut-être de la laisser travailler le plus librement possible, qu'elle puisse apporter sa marque, sa griffe sur cette équipe, et on verra très rapidement qui seront ces ministres, parce que si on devait constater qu'en effet ces ministres, c'est essentiellement ceux de l'ancienne équipe, en tout cas pour les gros postes, ceux de l'ancienne équipe, ouais, ça veut dire clairement qu'à ce moment-là, c'est le choix du président, et que elle est là pour juste pour l'image et pour faire tourner la politique présidentielle.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Lady Di de Fally Ipupa, chanson dans laquelle il rend hommage à la femme. On revient juste après.
Malgré les hauts et les bas, elle est toujours là. Les dédiés de ce ciel, la mise en bas de tout. Son cœur est plein d'amour, les pieds. Ça, c'est une chanson pour toutes les femmes fortes. Salutez ma maman, ma femme forte. Rata d'Angi, ma moyen. Elle reste forte. Les débits indiquent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages, c'est que la bouche dit. Miss indépendante, n'avons après. Après toutes ces années, elle reste toujours fraîche. Yoko tombe en anasua, papa. Yoko fina en anasua, maman.
Anushka Obezo, Paulette, Sarah, la jetseteuse et Régis Brahim.
Banana, let me be a
Kambi.
Yoko pinanga na zua mama.
Ika de yong.
Yoko tamanga na zua. Epa izua ya. Epa izua ya. Asha okuda kina na ya. Ika momo ke musala koma. Komola na ye. Pama pama. La lembi ye.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission, regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours avec nos invités. Nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons parlé de la promesse du chef de l'État relative à la création de plus de 6 millions d'emplois. Nous avons également analysé la nomination pour la première fois d'une femme à la tête du gouvernement en RDC. Participe à cette émission, Élisée Odiane, journaliste indépendante, Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kasaï Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Et il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits. Et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, il est journaliste au journal La Libre Belgique. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a affirmé que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a fui le pays car c'est lui qui est derrière la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Augustin Kabuya a formulé cette accusation lors d'une matinée politique animée devant les sièges de son parti sur la 10e rue Limité, samedi 30 mars. En disant cela, il a fait allusion aux jeunes du parti politique PPRD de Joseph Kabila qui ont rejoint la rébellion de Corneille Nanga. Une thèse qui réfute le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere. De son côté, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Assado, Jean-Claude Katende, a exprimé son inquiétude face aux accusations de l'UDPS qui, selon lui, divisent inutilement les pays. Il pense que la justice devrait interpeller les chefs du parti présidentiel pour qu'il apporte les preuves de ses allégations. Hubert Leclerc, que vous avez souhaité nous parler de cette question, on vous écoute.
Oui, mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Katende sur ce, je dirais, cette mauvaise habitude, j'ai envie de dire, des responsables politiques et des responsables du parti de M. Tshisekedi de diviser en effet la population congolaise. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu l'habitude de ce genre d'accusations qui sont portées par le pouvoir. On pense surtout que ça donne quand même l'impression que ces gens cherchent surtout à se déresponsabiliser de tout ce qui ne va pas au pays. Les accusations sont contre l'ancien président Joseph Kabila ont été portées par le secrétaire général de l'UDPS qui ne donne évidemment aucun argument. Le seul argument, c'est M. Kabila a fui. On retrouve d'anciens PPRD au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Donc, il est clair que c'est lui qui est le maître d'œuvre. Je dirais d'abord que lorsqu'on parle du M23, il faut se souvenir que le M23 n'est pas apparu en 2024, quand Kabila est parti de la RDC pour aller poursuivre ses études en Afrique du Sud, que l'Alliance Fleuve Congo elle est apparue le 15 décembre au Kenya. Et que, en fait, rien ne semble, si ce n'est évidemment que M. Nanga était à un moment donné proche de Kabila, qu'on a vu en effet certains jeunes du PPRD rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, et par contre on a vu également un monsieur comme Jean-Jacques Mamba, qui est un ancien du MLC, rejoindre l'Alliance Fleuve Congo. Je ne pense pas qu'on l'ait pointé, ou alors j'ai raté quelque chose, qu'on ait pointé pour autant Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, comme responsable également du M23 ou de l'AFD. Donc, une fois de plus, je dirais que c'est une manière pour le pouvoir en place de chercher à décrédibiliser les opposants, de chercher à les responsabiliser pour tout ce qui ne va pas au pays et pour dire, en tout cas, regardez, tout ce qui ne va pas, c'est la faute des autres, ce n'est pas d'un autre. Et ça, c'est vraiment regrettable. Parce que, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on ne prend pas les choses en main, que je voyais encore récemment le ministre Mouyaya qui pointait aussi du doigt le cardinal Ambongo suite à sa sortie lors de son homélie lors de la messe de Pâques. On a l'impression que tout ce qui ne va pas dans le sens de la communication, du narratif, pour reprendre un terme à la mode chez M. Mouyaya, et tout ce qui ne va pas dans le sens du narratif de l'État congolais, du pouvoir congolais, est critiqué, est pointé du doigt. On lance des anathèmes contre les uns, contre les autres, et on ne prouve rien, on ne démontre rien. Je me souviens de cette conférence de presse sur laquelle je reviens tout le temps, parce que pour moi c'était vraiment l'archétype de la fuite en avant d'un pouvoir, à un moment donné où on accusait la communauté internationale de faire pression sur le Congo avec un embargo sur les armes. Vous vous souvenez peut-être de cette conférence de presse qui était menée par M. Mouyaya et le Tundula, où on nous expliquait qu'en plein vol, l'avion qui devait amener des armes, le pilote de l'avion qui devait amener des armes s'est rendu compte qu'il y avait un embargo sur le Congo et que l'avion avait fait demi-tour. C'est complètement surréaliste, c'est un mauvais scénario, même Hollywood n'avait jamais pensé à faire ça. C'est absolument faux, il y avait pas d'embargo, mais c'est pas grave. On affirme des choses, on assène des choses, et on ne se sent obligé de ne rien justifier, et puis on passe à autre chose, et vous verrez que, d'ailleurs, personne n'a repris cette accusation contre Joseph Kabila, et demain, on va trouver un autre bouc émissaire, et ce sera lui qui sera mis en avant.
Oui, Hubert Leclerc.
C'est une sorte de litanie comme ça qui déresponsabilise le pouvoir, et je pense que c'est devenu, ce n'est même plus crédible, à part par certains qui veulent absolument y croire. Mais aujourd'hui, plus personne ne fait attention à ça, malheureusement.
Oui, Hubert Leclerc, oui. Ici, les accusations proviennent du secrétaire général du parti au pouvoir. Et vous, vous pensez qu'il pouvait se permettre de tenir de telles déclarations s'il n'avait pas assez d'éléments d'information à ce sujet?
Mais si on déclare une chose pareille, 10 jours après, on a au moins la décence d'amener quelques informations, quelques pistes pour expliquer pourquoi on a acheté ça. Est-ce que vous avez vu le début d'une explication qui nous permettait d'expliquer, enfin, de donner une base à ces déclarations? Si ce n'est de nouveau que, en effet, au sein de l'Alliance Fleuve Congo, il y a des gens qui viennent du PPRD, enfin d'anciens membres du PPRD. Mais c'est tout. Je dirais, de nouveau, je reviens à ce que je disais, on n'a pas entendu de critique contre M. Bemba lorsque Jean-Jacques Mamba a quitté le MLC pour rejoindre l'AFC. Donc, je ne vois pas. Est-ce que vous avez entendu quelque chose qui semble crédibiliser cette sortie? Si oui, je n'ai peut-être pas entendu.
Merci. Élisée Oudia, Augustin Kabuya dit que Kabila est derrière la rébellion du M23, mais aussi il affirme que Kabila a fui le pays. Il est parti sans que les services de sécurité ne soient au courant. Est-il possible que l'ancien président Joseph Kabila, ce serait un Congolais lambda, on comprendrait, mais un ancien président, est-ce qu'il est possible qu'il puisse quitter le pays sans que les services de sécurité ne soient au courant? Comme on l'a soutenu Augustin Kabuya, à votre avis?
Ben voilà les questions que les procureurs, les magistrats de notre pays devraient poser au secrétaire général du parti présidentiel, qui du reste était il y a sous peu informateur aussi, au lieu que ces derniers puissent s'attarder à menacer à tout va et les journalistes et le simple citoyen lambda. C'est là où on les attend. Parce que là, on ne parle pas d'un citoyen quelconque, on parle d'une autorité de ce pays, parce qu'il se présente également comme tel, et parce qu'il est une autorité de ce pays qui avance des éléments pareils. Moi, je pensais que le lendemain, il allait être, ne serait-ce qu'invité au niveau, je ne sais pas, à moi, il est député actuellement, peut-être au niveau de la Cour de cassation pour essayer d'apporter des éléments, parce que on veut y voir clair. Peut-être qu'il a des éléments que nous on ne sait pas. Bah, je ne vois pas Augustin Kabuya s'hasarder à lancer des fatwas comme ça ou à parler de ces choses sans aucun soubassement, mais il fallait maintenant que la justice de nos pays, le magistrat, les procureurs, se saisir de ça et plus nous dire qu'est-ce qu'il a comme élément, qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui d'affirmer cela. Moi, je suis dans l'attente vraiment d'une invitation du procureur de la Cour de cassation auprès du secrétaire général de l'UDPS pour qu'il puisse nous en dire un peu plus. Sinon, ça risque de rester comme des incantations et ça ne fait pas sérieux. Ça risque de ne pas faire sérieux venant d'un haut responsable, d'un député national, de celui qui est informateur et de numéro un du parti qui aujourd'hui est au pouvoir. On a tous besoin de connaître qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui peut expliquer quand même cet afflux de certains qui est avec nous ici, qui rallient la rébellion. On a besoin de réponses à toutes ces questions-là. Les inquiétudes sont de plus en plus grandissantes parce que là, on est dans une période où tout le monde soupçonne tout le monde et tout le monde risque d'accuser tout le monde de trahison et ça, ou de traître, ça c'est pas bien pour un pays qui se veut respectueux de droit et un pays démocratique. Mais au-delà de ça, poser peut-être la question sur le silence de Joseph Kabila, moi je pense que c'est pas un tabou. Kabila n'est pas un Congolais lambda. Kabila a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans et aujourd'hui il ne peut pas se comporter comme si le pays ne lui a rien donné alors que le pays lui a tout donné. Et il ne peut pas dire « bon de barrage, je m'occupe de mes études ». Oui, mais le pays est en feu. Les morts continuent, les femmes sont toujours violées. Lui demander de parler, ce serait pas trop non plus. Lui demander de s'exprimer, ce serait pas de trop. Parce que, il doit tout à ce pays. Il nous doit au moins ça, ne serait-ce qu'un petit clin d'œil, ne serait-ce que nous dire comment lui, il a réussi à démettre le 1-23. Ce serait pas de trop, ce serait pas trop lui demander. C'est un Congolais. Qui a dirigé ce pays et lui demandé de pouvoir s'exprimer sans... Moi, j'entends par exemple les gens dire oui, mais bon, ils étaient dans la coalition FCC-CACH, ils savaient comment ils avaient réussi à mettre leur coalition FCC-CACH, ils savent pourquoi ils se sont séparés, c'est pas notre... Mais là, on voit l'intérêt supérieur du pays. Et lui, en tant que président, un ancien président de la République, qui d'ailleurs a réussi aussi par ses efforts à réunifier ce pays, qui en 2013, on ne le dira jamais assez, a réussi à démettre le 1-23, et en droit, sans attendre à ce que l'actuel président ou sans attendre un quelconque dialogue puisse venir nous dire, écoutez, au regard de mon expérience, j'estime qu'il faille faire ceci et cela. C'est ça aussi, participer au retour de la paix dans ce pays. Il n'a pas forcément besoin qu'on puisse créer des cadres spécifiques juste pour Joseph Kabila. Il doit aussi essayer de regarder d'abord l'intérêt supérieur du pays, l'intérêt de la nation, et regarder les nombres de victimes. Moi, je veux bien que l'ex-première dame, par exemple, puisse aller dans la partie est du pays, remettre des vivres, parler avec les réfugiés, mais on a besoin de solutions beaucoup plus durables, et Kabila est en même de nous le proposer, parce qu'il a déjà fait preuve, il est passé par là, il a déjà eu à faire face au M23, et là, la donne qui s'ajoute, et comme vient de le dire mon confrère tout à l'heure, je crois que c'est trop facile de dire oui, parce que tel était dans le camp était au PPRD, donc forcément, je crois que c'est ce qu'on appelle nous ici à Kinshasa, il faut qu'on évite des raccordements frauduleux pour des questions aussi sensibles qui relèvent de la sécurité, de l'intégrité de notre pays. Là, jusqu'à preuve du contraire, l'infraction est individuelle, la liberté de pensée et d'expression est individuelle, on ne peut pas imputer l'infraction de l'un à l'autre. Et donc je reviens à ce que je dis, moi j'espère que les autorités judiciaires de nos pays, pour essayer de démentir que la justice congolaise est en train de se guérir de sa maladie, comme l'avait dit le président de la République, au lieu de faire une chasse à la sorcière, aux journalistes, aux défenseurs, aux activistes de droits humains, qu'ils puissent, parce que là, ils relève de l'intégrité du pays, qu'il puisse en tout cas inviter le secrétaire général de l'UDPS, parce que nous, on veut avoir vraiment des éléments qui nous permettront de juger qu'il y a culpabilité et accointance de Joseph Kabila avec le M23 et avec le Rwanda.
Merci, Maître Dominique Kambala. Justement, comment vous réagissez à la thèse selon laquelle, étant donné que certains membres du PPRD ont décidé de rejoindre la rébellion, cela signifie que Joseph Kabila est derrière cette rébellion?
Eh bien, ce raisonnement, il pose problème. C'est un raisonnement qui frise la généralisation abusive. Donc, on ne peut pas dire parce que il y a les membres du PPRD qui ont adhéré au mouvement de Nanga, donc X est derrière le mouvement de Nanga. Je pense qu'il y a un problème sérieux au niveau de la construction du raisonnement, qui ne tient pas debout pour ma part. Parce que là, en ce moment-là, on va arrêter tout le monde, on va suspecter tout le monde. Et ces raisonnements, ils posent un certain problème lorsqu'on veut rasseoir la question de la responsabilité et surtout la responsabilité pénale. Alors là, je rebondis rapidement sur l'opportunité de cette communication. Par rapport au temps, au contexte actuel dans le pays, est-ce que cette communication du secrétaire général était opportune? Il me semble qu'elle n'était pas opportune, parce que là, elle frise un peu une sorte de provocation. Or, on a besoin pour le moment de consolider la paix et de renforcer la cohésion nationale. Alors, les genres de discours, de communication qui frisent la provocation ne sont pas de nature à aller dans le sens de la paix, parce que les Congolais ont besoin de la paix actuellement et ils ont besoin de la sécurité. Aussi, le langage utilisé, ainsi que le cadre, est-ce que le cadre était approprié? Est-ce que le langage était approprié? Je dis aussi non. Le cadre ne me semble pas être approprié. S'adresser au public, en plein air, utiliser les propos du genre « on a fui » sans peut-être en apporter la preuve, ça pose un certain problème. Et là, il me semble que le CG utilise un peu une sorte de position dominante. Et on n'a pas besoin pour la paix dans ce pays d'agir en position dominante. Et que donc, pour ma part, le raisonnement pose des problèmes. Une généralisation abusive, c'est un raisonnement extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, ce genre de discours ne sont pas opportuns. Tous les Congolais ont besoin du renforcement et de la consolidation de la cohésion nationale.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité à l'RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le 21 avril prochain, ça sera la date anniversaire de l'artiste musicien Pascal Lokokanza. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques. Et ça l'est, on revient juste après.
Pata makoinda na likolo Anoke limbula lipanda na kuzela sale Kamembela ye bololo ya botu wa kimanga Nesunga kaye, sali nanga
Pe yo sale, jero sale Sale Pe yo sale
Quiero salir, salir. Motino ni ni
ganara,
c'est Salé de Pascal Lokwakanza. Pascal Lokwakanza qui n'est plus à présenter. Je rappelle que nous avons dans cette émission Élisée Odia, elle est journaliste indépendante, Maître Dominique Kambala, membre de la société civile du Kassai Central et ancien bâtonnier du barreau de cette province. Il est rapporteur de la commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation dans cette même province. Il est également directeur général de l'ONGD dénommée Société Congolaise pour l'État des Droits et en ligne depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Hubert Leclerc, qui est journaliste au journal La Libre de Belgique. La semaine dernière, l'on a commémoré le 7e anniversaire des graves violations des droits de l'homme commises par les forces de défense et de sécurité à Kananga, au Kasaï Central, dans la commune d'Enganza. Les faits s'étaient déroulés du 28 au 30 mars 2017 lors de l'opération porte-à-porte pendant les conflits Kamuina-Sapu. Maître Dominique Kambala, vous avez souhaité nous parler de cette actualité, on peut savoir pourquoi.
Merci bien, Guilmaté. Le mois de mars, c'est un mois douloureux. Douloureux parce que l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, se souviendra qu'au mois de mars 2017, le 12 précisément, il y a eu l'assassinat crapuleux de deux experts onusiens à Moyo Moussoula. Quelques jours après, c'est la triste opération porte à porte menée par les forces de défense et sécurité qui a endeuillé les populations, qui a provoqué l'abandon des femmes victimes de viols de leurs toits familiaux, qui a provoqué le pillage des biens des paisibles populations. Alors, nous avons voulu revenir sur cette actualité d'abord par devoir de mémoire. Les événements douloureux, cette page noire, constitue, fait partie du patrimoine culturel du Kasaï Central. Et au grand jamais, il ne faut pas oublier, mais nous avons retenu que, de manière générale, c'était presque dans l'oubli total que cet événement a été célébré, aucune célébration officielle. Or, il faut qu'il y ait ce genre de célébration. Nous avons un devoir de mémoire pour que nous puissions dire plus jamais ça. Au-delà de ça, les réflexions se portent sur les quatre piliers de la justice transitionnelle. Alors, les dossiers prioritaires, notamment le dossier des quatre accompagnateurs des onusiens qui ont été assassinés. Ce dossier est en train de moisir dans les tiroirs de la justice militaire. Les familles victimes n'ont jamais eu droit à la justice. Le dossier Nganza, il a été instruit par l'AMS, l'auditeur militaire supérieur, transmis à l'auditorat général des FARDC, mais ce dossier n'a toujours jamais été renvoyé devant la juridiction compétente depuis 2019. Il y a une sorte de déni de justice. Non seulement ces cas, mais il y a aussi tous les autres cas qui ont été, des graves violations qui ont été commises autour de cette période. Au-delà de ça, par rapport aux réparations, nous avons connu une réparation ridicule, une assistance humanitaire dans le contexte électoral, où on a donné à chaque victime une tôle à partager entre deux ou trois personnes, une pièce d'octobre à partager entre deux ou trois personnes, et nous espérons que les réparations vont venir. Par rapport aux garanties de non-répétition, les officiers qui ont participé à cette opération de tir de mémoire porte à porte ont été mutés ailleurs. Certains ont connu des promotions en termes de postes de responsabilité et aujourd'hui ils errent sans être inquiétés et entre temps les fonds qui sont décaissés, c'est ça aussi le problème, les fonds qui sont décaissés, des millions de dollars pour l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle en termes de missions, en termes de voyages, en termes de séminaires, en termes de réunions et pendant ce temps-là, les victimes se trouvent dans une situation de précarité inqualifiable. Les victimes se trouvent dans une situation de misère qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous avons souhaité, nous avons proposé de revenir sur cet événement. Terme de devoir de mémoire, parce que entre-temps, tout passe, sauf le passé douloureux, mon cœur de blessures profondes et des larmes des victimes.
Merci, Élisée Odia. Au vu de tous ces conflits interethniques qui sévissent dans plusieurs provinces de la RDC, peut-on dire qu'on a tiré les leçons du conflit Kamuina-Sapu?
Non, mais comment on peut tirer des conflits s'il y a déjà une problématique au niveau Je crois qu'au niveau de Kamena Sapo, il y a eu quand même des condamnations. La justice, dans certains cas, est allée aussi très vite, mais il n'y a pas eu de réparation. J'ai été moi-même une fois, c'est vrai, j'ai participé aussi au forum de la réconciliation qui s'est tenu en marge de tout ce qui s'est passé avec les Kamena Sapo. Mais après, je suis revenue plusieurs fois dans le Kasaï central. Et quand vous allez là-bas, j'étais assez abasourdi de voir que, franchement, il y a les victimes qui vivent aux côtés des bourreaux. Moi, on a eu à me montrer, ouais, vous voyez telle personne, il a eu à tuer autant de personnes. Et tout le monde le sait, tout le monde le voit, et personne ne fait quelque chose. On m'a eu à me montrer, tu vois, celui-là, il était un cam. Il a eu à faire ça, il a eu à tuer autant de personnes. Aujourd'hui, voilà, il est là, il circule aussi librement. On n'a pas dit que rien n'a été fait, mais je crois que beaucoup reste à faire. Et par rapport à ça, je me dis, par rapport peut-être au programme, c'est que j'arrive pas à très bien comprendre ce programme-là. Peut-être qu'il faille qu'on nous explique encore. Il y a un programme qui a été créé également par le chef de l'État en 2021 sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation RDC. J'ai l'impression que ce programme ne se focalise que dans la partie est du pays. Et ce qui est normal parce que c'est là où effectivement qu'on trouve un grand nombre de personnes au regard de la longévité de la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans cette partie du pays. Mais je me dis, est-ce qu'il ne faut pas peut-être intégrer également les victimes de Kamena Sapo dans ce programme-là pour essayer d'apporter tant soit peu une certaine solution? Mais au-delà de ça, on est dans une phase de réparation, mais en amont, il faut qu'il y ait de la prévention. Il faut qu'il y ait de la prévention, parce qu'on ne peut pas être là en train de réparer ailleurs et que de l'autre côté, ça brûle comme on l'a vu avec les Mobondo ici. Je parle de ce programme-là qui doit aussi essayer, peut-être à mon avis, de prendre aussi en compte les victimes de conflits des Kayaka aussi. Mais il y a cette problématique de la justice, on a parlé tout à l'heure de la justice transitionnelle, mais il y a aussi la problématique de la réparation. Mais pour moi, ce qui est important, c'est mettre en place justement une politique préventive de conflit. Faut pas qu'on attende à ce qu'il y ait, qu'un conflit se déclenche pour qu'ensuite qu'on commence à chercher de solutions. Et d'où il y a cette responsabilité-là à recréer, on parlait de ça tout à l'heure, une sorte d'unité nationale, de communion entre nous, de vivre ensemble. Et pour cela, la population, le peuple tout entier aussi a besoin des gages venant aussi de la part de l'actuel pouvoir, l'actuel régime. Il faut qu'on sente dans le propos du président, il faut qu'on sente dans le propos de la première ministre, en tout cas dans l'ensemble de ceux qui aujourd'hui sont en train de gouverner le pays, qu'il y a une volonté de recréer le vivre ensemble entre communautés, entre politiques. Il y a moyen d'être adversaire sans pour autant se tirer dessus, sans pour autant se tuer. Il y a moyen d'être en désaccord sans pour autant que cela puisse aboutir à une forme de violence.
Merci. Et bien, il est clair que nous allons finir avec vous. Il y a encore beaucoup de conflits interethniques dans ces pays qui continuent à faire des victimes. Et à votre avis, la solution passerait par quoi? Élisée Odia pense qu'il faut envisager, il faut concevoir une politique préventive des conflits. C'est quoi votre réaction?
Je pense qu'en effet, c'est nécessaire. Il faut rétablir le dialogue, mais il faut pour cela également que le pouvoir joue son rôle. Le pouvoir n'est pas là simplement pour gérer ce qui va bien. Le pouvoir, le ministre de l'Intérieur, a un rôle à jouer. Il faut aller vers ces populations, il faut ouvrir le dialogue, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter. S'il ne se passe rien, si on attend toujours qu'il y ait les premiers coups de feu qui éclatent, le premier sang qui coule et que tout s'envenime avant de commencer, on n'y arrivera jamais. Le pays est gigantesque, mais le pouvoir a un rôle à jouer. C'est essentiel. Si on veut apaiser, il faut dialoguer. Et ce n'est pas en lançant des constats, en tribalisant certaines choses qu'on va y arriver. Non, vous avez un pays qui est fabuleux, qui est gigantesque, où il y a énormément de population, mais il faut en effet réinstaurer un dialogue, essayer qu'il soit le plus serein possible. Ce ne sera pas facile, tendons-nous bien, mais c'est inévitable si un jour on veut retrouver un semblant de paix, de stabilité et d'envie de vivre ensemble dans ce pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer, Madame Élisée Odia, Maître Dominique Kambala et Hubert Leclerc. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe et DJ Zadi, de Paul Badianyama et d'Hervé Voka sous la supervision de Mathieu Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Nala Lipongi, chanson de Joscar Nyokalongo dans Aiko Langa Langa, une chanson sortie en 1976. On se retrouve le samedi prochain.
Nalali pongi mama.